c'est Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Un jour nouveau, un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Et merci de choisir Radio Capi pour vous informer. La centrale électorale nationale vient de prolonger l'opération d'identification et d'enrôlement dans la première ère opérationnelle et maintient le début des opérations pour ce 25 janvier dans la deuxième zone opérationnelle. Le Premier ministre sera Samalou Kondé, lancera ses opérations à Lubumbashi et Denis Kadima, président de la CENI, sera au Kasaï. Entre-temps, il a été observé une pré-campagne à chaque descente de candidats annoncés au centre d'opération. Pensez-vous que cette prolongation aura un impact sur les calendriers électoraux? Et que dire de cette pré-campagne selon la loi électorale? Toute équipe est là pour vous tenir compagnie. Priscille Kabouya, Moudiaï et Mimi Kindou concourent à la production et à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie, excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
La traite des personnes, ça doit cesser. Ensemble, dénonçons et combattons la traite des personnes.
L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes se mobilise avec l'Organisation internationale pour les migrations et l'USAID.
Pour en savoir plus, rendez-vous ce vendredi dans Okapi Service à 10h, heure de Kinshasa, 11h à l'est du pays sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci à Alain Bolodjoa qui nous a rejoint. Lui, il est notre invité. Alain Bolodjoa, acteur politique et en même temps analyste politique. Vous êtes avec nous. Bonjour Alain.
Bonjour à tout le monde. Bonne année.
Bonne année à vous également Alain Bolodjoa. C'était un réel plaisir de vous retrouver à nouveau en ces débuts d'année. Alors, d'entrée de jeu, pensez-vous que cette prolongation de 25 jours dans la zone opérationnelle, la première zone opérationnelle, aura un impact sur les calendriers électoraux?
Bon, premièrement, ils doivent d'abord nous dire qu'est-ce qui les avait poussés à présenter un calendrier fixant la période de l'enrôlement à un mois, compte tenu de ce que nous avons connu la fois passée. Parce qu'il se souviendra qu'en 2005, il y a eu effectivement enrôlement pour que nous passions, nous allions au référendum. On a connu la prorogation de l'enrôlement en 2006 pour nous permettre d'aller aux élections. En 2009, je crois qu'il y avait aussi des opérations, justement pour ajouter sur le fichier électoral le nouveau majeur. En 2011, on a renouvelé le fichier électoral. En 2017, on a procédé également, mais fort malheureusement, pendant toutes ces périodes-là, on n'a jamais connu un enrôlement pour un mois. Il vous souviendra que il y a peu, il y avait une dame, membre de du bureau de la CENI, avait fustigé le fait que le calendrier était trop serré en ce qui concerne ces opérations-là. Il y a eu un débat houleux, la dame avait proposé à ce que ça se fasse au moins pendant 3 mois. Et fort malheureusement, elle n'a pas été comprise. Aujourd'hui, il y a prorogation. C'est vrai, dans chaque programmation, on prévoit toujours le moment le plus tôt et le moment le plus tard. Mais il y a possibilité, n'est-ce pas, de réajuster au regard de besoins sur le terrain. Mais avant que l'on procède à la prorogation, on doit d'abord procéder par l'évaluation des opérations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce parce que le personnel n'était pas au point, où la technologie utilisée n'était pas adaptée, ou sinon on avait minoré le nombre, la durée, par le fait qu'on avait fait une
évaluation. Oui, mais cette évaluation a été faite telle que nous l'a signalé le rapporteur Madame Seya, lorsqu'elle a annoncé la prolongation de cette opération, elle a insisté pour dire que voilà, la plénière, les membres de la CENI se sont retrouvés en plénière pour évaluer des problèmes techniques et également les raisons parce qu'il y avait une faible participation de la population.
Oui, mais effectivement, c'est ça en fait le principe. Mais maintenant, ils doivent dégager les raisons valables de non-atteinte
de cet objectif, oui,
au regard de la durée qui se sont fixées. Et c'est sur base de ça qu'ils pourront prendre la décision. S'il n'y a pas engouement, qu'ont-ils prévu pour la période de prorogation pour qu'il y ait engouement? Parce que ce qu'il faut reconnaître, il n'y a pas une forte sensibilisation. On n'a pas senti que la population était vraiment emballé dans ça, parce que j'ai trouvé dans d'autres bureaux, dans d'autres centres, vous trouvez il n'y a pas assez de gens. Et il n'y a pas une communication, il n'y a pas de publicité. Et on n'a pas mis des affiches ou de banderoles pour indiquer qu'il y a des bureaux. Mais aussi, au-delà de ça, la population n'a pas confiance.
Oui, mais en son temps, le rapporteur de la CENI se plaignait déjà de ne pas être à la tâche par rapport à ces volets de sensibilisation, parce que ce sont ses prérogatives.
Non, mais bien évidemment, ce qui veut dire qu'il n'y a pas harmonie au niveau du bureau, et il y a une sorte de centralisation en outrance de compétences au niveau du président. Mais lorsque vous consultez la loi, vous vous rendez compte que les décisions sont prises au niveau de la plénière. Mmh. Et avant que cela ne soit fait, il faudrait d'abord, préalablement, que le bureau puisse siéger. Tous les membres du bureau doivent siéger, en débattre, et si, lorsqu'il y a consensus ou il y a une décision qui est prise à ce niveau, ils vont au niveau de la plénière, et c'est la plénière qui est souveraine. Ce qui veut dire que la CENI ne fonctionne pas conformément à la loi. Ce qui est aussi important de retenir, qu'à chaque fois qu'il y a prorogation, il y a effectivement une incidence sur la suite des opérations. Parce que après l'enrôlement, il faut que l'on fasse le toilettage des listes. Il faut que l'on tienne compte de contentieux qui peuvent en découler. Et après, il faut que l'on ait une loi. Ces lois-là qui demandent, qui attendent à ce que l'on publie le fichier électoral vont certainement connaître un peu de retard, justement parce qu'il y a prorogation. C'est ce qui s'est fait dans cette partie. Mais pour l'autre partie, les opérations commencent. Sans oublier, au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire au niveau international,
la diaspora
a été retenue. Est-ce qu'il y a une bonne cartographie? Si ces éléments-là ne sont pas faits dans le respect strict de la norme, eh bien, vous allez vous rendre compte que ça va avoir une incidence pour la suite du processus. Et je crois que c'est ce qui est désiré par nos frères qui sont dans cette institution.
Voilà. Alors, depuis 2005, comme vous l'avez dit, même jusqu'en 2017, il y a eu effectivement les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, mais on n'a pas senti, un comportement qui s'est observé cette année particulièrement, où les candidats annoncés et mobilisent assez de gens, ils font une longue file, ils perturbent même l'ordre public pour aller se faire enrôler.
Non, mais ça fait partie des stratégies. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui font ces choses sont du pouvoir. Voyez-vous ? Apparemment, il y a eu un fonds qui était décaissé en leur faveur, justement pour leur permettre de faire le travail de la CENI. C'est-à-dire de sensibiliser leur base afin d'aller se faire enrôler. Et au-delà de banderoles, ils organisent des activités. Nous sommes là en pré-campagne, en fait. Parce qu'il y a même des gens qui sont allés au-delà de la simple sensibilisation dans le domaine de l'enrôlement.
Non, confondre la sensibilisation à la pré-campagne, ça c'est autre chose. C'est vraiment des choses différentes.
Ils font la pré-campagne. Moi, j'ai suivi M. Mbosso, qui est président de l'Assemblée nationale.
Qui parle de pré-campagne, mais pourtant nous y sommes pas.
Non, mais effectivement, mais nous sommes dans un cadre où ceux qui sont au pouvoir considèrent qu'ils ont le droit de tout faire. Parce que si vous suivez M. Mbosso, si vous avez suivi M. Mbosso, il a dit clairement que même après sa mort, que nos concitoyens vivant dans le Grand Bandundu puissent voter pour M. Félix Tshisekedi. Ça veut dire que pour eux, ils sont là en pré-campagne. Ils veulent dire aux gens qui sont candidats, alors que jusque-là, on n'a pas convoqué l'électorat. Et au-delà de ça, ils disent carrément à leur population, à leur base respective, de voter pour eux. Voyez-vous, peut-être qu'on n'a pas pu avoir le son, mais au moins, il y a eu des témoins, des gens qui battent campagne, qui disent qu'ils seront candidats, et c'est grâce à eux que les autres là vont aller se faire enrôler et donc ils doivent voter. Mmh. Nous avons même appris qu'il y avait quelqu'un qui aurait financé le membre du bureau et financé l'enrôlement rapide de ces militants en donnant aux membres du bureau de l'identification d'enrôlement des sous justement pour accélérer le processus. Et cela a été fait au vu aussi de tout le monde. C'est-à-dire que déjà, on se rend compte que personne ne respecte la loi.
Voilà.
Alors, on va. Et c'est quand même décevant.
Merci beaucoup, Alain Bolodja. Nous vous gardons en ligne. Il est temps d'écouter les auditeurs qui ont commenté ces sujets. Et là, nous profitons d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui ont été touchés par ces sujets sur notre page Facebook ou encore sur notre plateforme digitale. Nous, comme on le sait, la CENI vient de prolonger de 25 jours l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Mais entre-temps, ce 25 janvier, il y aura démarrage de l'opération dans la deuxième zone opérationnelle. 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Kinshasa 2023. Quelle sera la mascotte des 9e jeux de la francophonie? Vous avez du talent et vous êtes âgé entre 18 et 35 ans. Exprimez-vous en participant au concours du Comité national des jeux de la francophonie. Un seul candidat remportera le prix. Vous êtes intéressé? Allez vite sur la page Facebook et Twitter de 9e jeu de la francophonie. Pour postuler, cliquez sur les liens situés à côté de l'annonce du concours. D'abord, lire le règlement du concours, ensuite remplir le formulaire jusqu'à télécharger votre proposition et enfin, soumettez votre candidature. Le concours est ouvert jusqu'au 28 janvier. À vos marques.
En route pour la 9e édition des Jeux de la francophonie.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de choisir Radio Capi pour vous informer. Nous allons proposer donc ce premier tour avec les auditeurs qui sont déjà en ligne. Edmond, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, J.R., bonjour. Bonjour à M. Alain Bolodja et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous avez la parole. Quel est votre commentaire par rapport à cette actualité?
Bon, M. J.R., je pense que c'est une actualité connue de tous au sujet du lancement des opérations d'identification d'enrôlement, surtout pour la première ère opérationnelle. Je pense qu'il faut qu'on se le dise véritablement que, en fait, les résultats jusqu'alors attendus par la CENI ne sont pas bons parce qu'il y a beaucoup d'aléas sur le plan pratique. Moi, je me suis enrôlé. Je vous dis que j'ai fait le dimanche passé de 5h à 15h pour être enrôlé. Et pendant que j'étais au centre d'enrôlement à Kitambo, j'ai vu les gens qui monnayaient, ça veut dire les gens qui finançaient les personnels qui sont là pour que ils puissent passer en enrôlement. Et donc ça pose vraiment un sérieux problème et aussi un problème sérieux technique. Vous trouvez dans un centre une telle machine et avec quelle opèse les opérateurs de saisie qui ne sont pas professionnels. Donc sur le plan pratique, je pense que en tout cas le bilan n'est pas correct sur la première zone opérationnelle. Et moi je pense que il était nécessaire et correct que la CENI puisse décider de pouvoir accorder encore un temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enrôlés vu les différents aléas que je venais d'évoquer tout à l'heure. Et puis
mais maître Edmond, quand on écoute les communiqués de la CENI ou encore le rapporteur de la CENI qui a fait ses communiqués à la RTNC hier, on se rend compte que la CENI fustige les comportements de certaines opinions sur les réseaux sociaux qui ternissent l'image de la CENI par rapport à cette opération, mais qui n'en est pas une.
Oui, bon, je pense que c'est cette année, l'identification de cette année a connu quand même une autre allure par rapport à l'identification en fait en 2006, 2011 et 2016. Parce que vous savez que l'ampleur que la discussion a prise, c'est vraiment une ampleur politique. En fait, même les acteurs politiques devraient laisser vraiment le processus entier de A à Z à la CENI. Mais il y a eu une récupération politique, et ce qui fait que beaucoup de gens, même s'il y a certains aléas politiques, comme nous le disons, beaucoup de gens devraient quand même accorder un certain crédit au travail effectué par la CENI. Voilà.
Merci.
Et puis, M. Gérard, je voudrais aussi parler au sujet de la pré-campagne. Moi, je l'ai dit, je l'ai publié même sur les réseaux sociaux. Je pense que la CENI devrait interdire, même les gens qui utilisent le logo de la CENI, enrôlons-nous massivement, et vous allez voir que ce sont les mêmes affiches que les gens vont utiliser au mois de décembre pour battre campagne. Et l'article 80 de la loi électorale interdit. Cet article prévoit quiconque la campagne électorale en dehors de la période légale imprimée d'une amende de 10 000 à 50 000 francs congolais. C'est-à-dire que la pré-campagne est prohibée. Et les affiches que les gens utilisent, vous allez voir qu'ils utilisent le logo de la CENI. C'est presque la campagne. Et j'ai suivi même le communiqué du président de CESAC qui interdit même aux médias de pouvoir passer dans leur chaîne les différentes
démonstrations d'enrôlement
à la campagne électorale. Donc je pense que la CENI doit prendre vraiment des mesures idoines pour essayer de sanctionner tout ce qui se livre à la pré-campagne, parce que c'est prévu. C'est-à-dire que lorsque vous battez une campagne précoce, la CENI peut décider même, parce que ce sont les élections, on peut soulever même...
Oui, mais quand le président d'une grande institution comme l'Assemblée nationale déclare que effectivement nous sommes en pré-campagne.
Bon, moi personnellement, je ne l'ai pas suivi.
Parce que c'est le législateur.
Oui, je ne saurais pas mettre un mot dans parce que je ne l'ai pas suivi, mais je pense que d'une manière globale, en tout cas, le président de la République, il était chez nous à l'Équateur, mais moi je n'ai pas suivi le président battre les campagnes. Il a dit aux gens de Mbandaka, votez, vous allez voter juste les personnes qui conviennent pour vous diriger comme député, comme gouverneur. Et c'est limité là. Et c'était sur base des différents problèmes soulevés par la population. Donc,
c'est ça. Merci beaucoup. Merci, oui, Maître Edmond, d'avoir partagé ces informations avec nous. Alors, on va prendre Alidor. Alidor, vous êtes avec nous.
Bonjour, Monsieur Gérard. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capé.
Vous avez la parole. Quel est votre avis?
Oui, Monsieur Gérard, l'avis est que d'abord, nous jetons des fleurs à la CENI pour le travail qui est en train d'être fait sur terrain. Mais ce que nous avons voulu est que la CENI, le délai de un mois pour les opérations d'enrôlement, c'était irréaliste. C'était ça le mauvais départ. Les un mois, ça ne pouvait pas suffire, vu le nombre de candidats ou bien de personnes attendues pour être enrôlées. Et aujourd'hui que la CENI est en train de prolonger pour un mois, pour 25 jours, la CENI n'a pas évalué les écueils, ce qui n'a pas marché au début pour justifier cette prolongation. Et quand vous parlez de lancement des opérations d'enrôlement et d'identification dans la deuxième heure opérationnelle, on revient encore au même délai d'un mois là au début. Et c'est pour dire que la CENI ne s'est pas servie des écueils ou bien des erreurs qui se sont passées dans la première zone opérationnelle. La CENI, c'est pourquoi la CENI pouvait d'abord s'auto-critiquer, s'auto-évaluer, parce que le recrutement des agents, M. Girondo, on ne doit pas se voiler la face. Il y a eu un recrutement non qualitatif des agents. Beaucoup étaient en train d'apprendre devant la machine. Et nous craignons que cela puisse encore se répercuter dans d'autres zones, dans d'autres aires opérationnelles et que ce soit encore pire. On risque d'aller de 1 mois, de 25 jours et que juste l'opération d'enrôlement et d'identification puisse prendre à elle seule plus de temps que prévu. C'est ça un peu la première manche, M. J.R. La deuxième manche est que aujourd'hui nous assistons à la pré-campagne. C'est bien beau, et même si certains politiciens sont en train de soutenir ça, mais c'est contre la loi. Aujourd'hui, avec ça, nous doutons que nous puissions avoir des élections prétendues en 2023, ici au mois de décembre, parce que déjà nous sentons les discours de haine, les discours d'incitation à la haine, des discours de division, de ceci, de cela. Et même ce que nous avons appris dans la première ère opérationnelle, certains candidats qui perturbent même l'ordre dans des centres d'enrôlement. Alors, nous craignons que cela puisse encore se répercuter. La CENI pouvait sortir un communiqué rappelant tout le monde à l'ordre pour que les opérations d'enrôlement puissent se passer dans la quiétude.
Dans la sérénité. Merci beaucoup, Maître Alidor. Il y a tout à l'heure Maître Dumont qui évoquait l'article 80 qui interdit la pré-campagne sous peine de 10 000, d'une amende de 10 000, entre 10 000 et 50 000 francs congolais. Merci beaucoup, Maître Alidor, d'avoir appelé également. On va prendre Sylvain Aguenado qui est à Bounia. Sylvain, actuellement, vous êtes à Isiro.
Exactement.
Bonjour Sylvain. Vous êtes acteur politique et en même temps, quelle lecture faites-vous de cette situation?
Bien. Il faut d'abord dire que cette entorse dans les comportements des partis politiques est liée au fait que beaucoup de partis politiques ne maîtrisent pas les grandes lignes des lois en matière de politique électorale. Il faut d'abord dire que, au terme de l'article 2 de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo, tout parti politique est censé former la conscience nationale et l'éducation civique, politique et électorale de la population. Ça, c'est derrière. Et je pense que c'est ce qui devrait être fait tout au long de la durée du fonctionnement de chaque parti politique. Et alors, l'entorse arrive lorsqu'on confond les choses. Ça veut dire, au lieu de mobiliser les militantes et militants cadres du parti autour des idéaux du parti et même du fonctionnement de la République, les gens se lancent à des actes qui dénaturent les lois du pays. Et ici spécialement, la loi électorale, d'ailleurs déjà un auditeur venait de citer l'article 80, qui est trop clair par rapport à ça. Et je crois que, à un moment donné, il faut ce que moi j'appelle le cadrage par la Commission électorale nationale indépendante de certains partis politiques. D. Il faut dire que chaque parti politique est dans l'obligation de suivre d'une manière minutieuse le cycle électoral qui est de 5 ans. Ça veut dire, lorsqu'on termine un cycle électoral, comme nous l'avions fait en 2018, chaque parti politique responsable se lance dans l'éducation, la sensibilisation, la conscientisation et la mobilisation de ses membres au prochain processus électoral. C'est le cas de mon parti, Nouvel Élan, puisque j'étais en train de vous dire ici que nous, ça fait presque un mois que nous sommes en train de former nos cadres, nos militants, pour les préparer à une bonne participation au processus électoral. Troisième chose, il faut noter que ce qui se fait aujourd'hui est tout simplement aussi de l'irresponsabilité de la CENI de pouvoir avoir un mécanisme de communication entre les parties prenantes. Aujourd'hui, ce que nous observons à travers les comportements des partis politiques autour du processus de l'enrôlement des électeurs, ça veut dire de la révision du fichier électoral, est tout simplement la conséquence de l'idiotie de la classe politique congolaise. Excusez-moi. Ici, il faut dire que chaque parti politique a le devoir de préparer ses militantes et ses militants cadres afin de s'assumer face au processus électoral. Nous commençons chaque fois notre processus électoral depuis 2006 par l'enrôlement des électeurs. Quelle est l'obligation légale de chaque formation politique face à ce processus? C'est d'éduquer, de sensibiliser ses membres afin de comprendre les enjeux de l'enrôlement. Qu'est-ce qu'on doit présenter comme pièce lorsqu'on est devant un CI ou un centre d'inscription?
Oui, mais quand vous dites sensibiliser, ça c'est en interne. Il ne faudrait pas prendre toute une population en otage pour qu'ils vous accompagnent et pour vous faire enrôler juste pour quelques minutes.
Je pense que ça devient une coutume. Il ne faut pas oublier, monsieur Gère, c'est qu'à l'absence des règles, c'est vrai, il arrive des fois que nous tombions dans la coutume. Lorsqu'un leader politique se déplace pour n'importe quelle action politique, le plus souvent, il est accompagné. Et je pense qu'à un moment donné, si la pratique politique, c'est un fait normal. Mais comment cela doit être fait? Cela doit être fait dans le respect des lois qui sont établies. Et peut-être qu'à ce niveau-là, on peut constater cette nombre de tapages. Moi, je note que c'est une façon que chaque parti politique et chaque cadre élu ou leader politique se fasse connaître. Et comme vous savez, dans l'habitude de la démocratie, et surtout de la lutte du combat politique, les leaders ne se promènent pas seuls. Il est possible que les leaders politiques, par exemple, un président des partis politiques, un secrétaire général des partis politiques, se fasse accompagner par quelques cadres pour aussi permettre d'observer, non seulement lui seul, mais avec ses coéquipiers, la façon dont la chose se déroule.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Sylvain d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission 081 890 6330 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Voilà, nous poursuivons parole aux auditeurs dans cette deuxième demi-heure de l'émission. Avec vous, Alain Bolodjoa, après avoir écouté les uns les autres, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Alain Bolodjoa?
Oui, mais premièrement, je tiens d'abord à m'acquitter d'un agréable devoir, celui de féliciter les interventions des uns et des autres. Bien que je suis un peu surpris de voir qu'on a félicité tout de même la scène. En réalité, on devait aller du bien en mieux.
Mais oui, mais parce que la scène a tenu parole, Alain Bolodjoa. A tenu parole. Avait promis aux 24 de débuter
La CNI aujourd'hui fait des choses avec beaucoup de maladresse et nous tous l'avons reconnu. Alors qu'en réalité, après 3 cycles électoraux, on devait plutôt corriger les imperfections de la fois passée. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte que nous revenons plutôt à la case de départ. Si vous prenez en termes des opérations, on n'a plus rien à inventer. Parce que ça existait. Il y a tout un mécanisme en matière de recrutement, en matière de formation, en matière de déploiement, la cartographie. On a déjà une idée parce que nous avons eu à mener des opérations dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que des choses se font avec maladresse, mais nous avons quand même le culot de féliciter. Il n'y a pas à féliciter. Parce que le processus d'enrôlement et d'identification ne se fait pas selon l'esprit de la loi et même selon la coutume. Comment pouvez-vous imaginer? On a dit ici qu'on a donné on a confié les opérations à l'ONIP. L'ONIP participe dans une certaine mesure dans les opérations. Mais ces opérations-là sont faites de la plus mauvaise manière. Tenez, nous avons voulu assez que pour le nouveau majeur ou le nouveau enrôlé, il faut qu'il y ait des témoins. On trouve des témoins sur place. Si que vous arrivez sur place, on veut vous faire enrôler, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez 3 personnes sur place et vous faites enrôler. Ce qui veut dire que dans ça, on ne va pas atteindre l'objectif souhaité au départ. On avait voulu assez qu'il y ait au moins des témoins pour assurer à l'administration que la personne qui se présente devant le membre du bureau sont effectivement droit de se faire enrôler, soit parce qu'ils sont congolais ou soit parce qu'ils ne sont pas apolitiques. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a des militaires, des policiers qui se font enrôler contre la loi. Il y a de non-congolais qui risquent de se faire enrôler justement parce qu'il y a légèreté dans ça. On ne peut pas saluer. Mais aussi la qualité des opérateurs. Nous nous plaignons, mais qui devait enrôler et qui devait recruter, qui devait former et déployer? La CNI ne l'a pas fait de la bonne manière. Vous prenez la localisation géographique de centres d'enrôlement, ça pose problème. Au-delà des les partis politiques ou le militant des partis politiques ne font pas seulement la campagne pour l'enrôlement, ils font la campagne électorale. Je suis surpris d'apprendre ici que M. Félix Tshisekedi n'avait pas fait campagne, n'avait pas bâti campagne électorale à l'Équateur. C'est faux. M. Félix Tshisekedi a demandé à la population de l'Équateur de lui donner cette fois-ci de une bonne majorité pour qu'il arrive à exécuter sa vision. Il était déjà en pleine campagne. Et d'ailleurs, il avait commencé bien avant. M. Mbosso a fait la même chose. C'est ce que nous vivons chaque jour. Si le CENSA, le CESAC a eu à lancer le message, c'était justement parce que il s'est rendu compte que les gens étaient déjà en pré-campagne électorale. La pré-campagne n'est pas interdite dans le domaine de la sensibilisation, de la vulgarisation, justement pour attirer les gens à aller vers
l'enfant. Alors pourquoi avez-vous condamné ou fustigé les comportements des anciens dignitaires, notamment du PPRD ou encore du FCC, à l'époque, qui agissaient comme ça en pré-campagne parce qu'ils avaient des moyens?
Non, mais ça, ce sont des choses que nous devons bannir. Parce que nous devons savoir que le PPRD n'est pas un modèle. Ce que nous avons fustigé pour le PPRD, nous devons le faire aussi pour ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'on risque de donner l'impression que tout ce qui était mauvais à l'époque de Kabila doit être accepté aujourd'hui parce que Kabila l'avait fait. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Et si nous prenons en termes de l'évolution de nombre d'enrôlés, quelles sont les statistiques d'aujourd'hui? Et quelles étaient les prévisions par rapport à ce qui était fait la fois passée?
Nous sommes à 7 millions, nous sommes à 7 millions d'enrôlés dans la zone, dans la première zone opérationnelle, et à 18 000 qui étaient attendus.
18 millions attendus?
Oui, 18 millions, voilà. 7 millions aujourd'hui, et 18 millions qui étaient attendus.
Non, mais voilà, toutes choses étant égales par ailleurs, il leur sera difficile d'atteindre 10 millions.
D'atteindre 22 millions, par exemple, qui, comme c'était la dernière fois.
Ah, voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà, dans la conception, dans la conception au niveau de la CENI, les choses n'ont pas été bien faites. Et même sur le terrain, nous sentons qu'il y a beaucoup de maladresses. Ce qui m'étonne, la personne qu'on avait encensée, qu'on avait présenté comme l'expert des experts.
Oui, là nous risquerons de tomber dans le jugement des valeurs. Allez, Bolodjoa, on va évoluer, sinon, parce qu'on ne va pas se permettre de tomber dans le jugement des valeurs. Il est temps d'écouter d'autres auditeurs, et puis on revient à vous, hein, parce que bon, vous allez écouter ce que pensent les uns et les autres. Amos, vous nous avez rejoint. Bonjour, Amos.
Bonjour, Pierre. Bonjour à tous les auditeurs de la radio CAFI. Bonjour à l'invité.
Vous avez la parole.
Merci bien. En fait, nous sommes en train de suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'arrondissement des électeurs. Et on a suivi comment le bureau de la CENI a prolongé pour 25 jours l'arrondissement des semaines électeurs dans la première zone opérationnelle. Mm-hmm. Nous pensons que déjà, ça confirme ce que nous avons eu à dénoncer au début. Nous avons dit que le glissement est entré de se confirmer. Si on peut prolonger pour 25 jours l'enrôlement de nouveaux électeurs dans la première zone opérationnelle, et vous venez de suivre que les enrôlés attendus étaient 18 millions, on est autour de 7 millions. Mais on n'a pas encore enlevé même la moitié. Je vous dis qu'on risque encore de prolonger même après ces 25 jours. Ce qui impacte déjà sur le calendrier électoral publié. Et nous l'avons alerté bien avant, mais on ne nous a pas compris. Par rapport à la campagne précoce que tout le monde dénonce aujourd'hui, comment c'est grave dans notre pays parce que nous avons des bons textes, mais que les dirigeants eux-mêmes violent à longueur de journée. C'est ridicule et c'est honteux pour notre pays. La loi électorale est claire. On ne peut pas se livrer à la campagne électorale en dehors du délai prévu. Mais on est en train de le constater avec beaucoup de regrets. Tout le monde qui est en train d'aller se faire enrôler, surtout les officiels, ils partent avec beaucoup de gens derrière, ils ont fait les bases.
Mais tous ces gens derrière sensibilisés, pourquoi ils n'ont pas donné l'occasion d'atteindre les 18 millions? Donc c'est pas réaliste alors. C'est du trompe-l'œil. Pour une consommation publique.
Tout à fait. C'est pour la consommation publique et vouloir flouer Certains m'ont averti sous prétexte qu'ils ont une base pour Tano. Même au sud Kivu, il y a des gens qui arrivent disant non, ils viennent sensibiliser les gens pour qu'ils s'arrondent. On va lancer l'arrondement le 16 février. Mais vous sentez déjà des messages tendant à vouloir montrer qu'ils ont déjà commencé la campagne électorale.
Alors, mais ce qui est plus curieux, nous avons constaté également quelques incidents lors de ces opérations, et parfois des candidats prononcés, des candidats annoncés, les deux camps ou les trois camps se livrent ou ça donne à des bagarres généralisées, parce que de tels jeunes qu'on a trouvés dans tel groupe et de tel autre, et qui se retrouvent au même moment de l'autre côté, parce que pour autour de 2000, 5000 ou 6000 francs congolais.
C'est ce qui est grave. Au moment, ce qui a choqué, c'est de constater que même un responsable d'une grande institution du pays, Mbosso, il a été à Congo au Bandundu, et lui-même, il a appelé les gens à voter pour l'actuel président Félix. Au moment où il y a même des thèmes qui sont prévus dans la loi électorale.
Oui, mais j'ai suivi aussi l'opposition, certains membres de l'opposition, qui demandent à la population de se faire enrôler pour faire partir Félix. C'est pratiquement tous voilà. Ces livres. Ils sont en train de bafouer la loi. L'article 2 et l'article 80 de la loi électorale.
J.R., on ne prend pas le mal pour modèle. Nous avons chassé le régime sortant pour toutes ces ratées-là. Mais parce que en qui nous avons fait confiance.
Parce que la loi interdit la distribution d'argent, la distribution de polos, et nous l'avons remarqué pendant cette période.
Tout à fait, nous avons fait confiance à ce régime parce que tout le monde savait que ce régime est autorisé ou tout se rappelle à du régime sortant. Mais si on peut constater que le président de l'Assemblée actuelle peut appeler les gens à voter pour l'actuel président en dehors du délai prévu, il devait être interpellé dans un état sérieux, ce qui n'est pas le cas, où il devait payer les amendes prévues dans la loi qui sont de 200 000 à 2 000 francs congolais. Voilà pourquoi nous pensons que nous ne cessons de le dire. On a pensé qu'avec le régime sortant, le pays va connaître une avancée pour ce qui est de la démocratisation du pays ou du respect de nos lois. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Voilà. Donc, selon vous, Amos, on fait encore du surplace. Merci beaucoup. On va prendre Safari qui est à Inga Barrière. Je crois que vers la frontière du Rwanda. À Inga Barrière. Safari?
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Je vais vous poser quelque chose. Inga Barrière, c'est à Ituri. Hein.
C'est à Ituri, voilà. Oui. Merci de nous avoir précisé, oui.
En tout cas,
nous avons confondu avec la petite barrière.
Ah oui.
Merci beaucoup. La petite barrière, c'est la frontière du Rwanda. Et Inga Barrière, c'est à Ituri. Toujours dans l'est du pays. Alors, vous avez la parole.
Oui, je remercie d'abord la CENI d'avoir fait le constat que nous, on avait fait bien avant. Hein. On disait toujours que les 30 jours ne suffiront jamais. Alors aujourd'hui, la CENI est arrivée à cela. En tout cas, merci d'abord. Et je souhaiterais que ce même avantage soit également pour les aires qui restent, deuxième, troisième aire, pour qu'on puisse toujours accorder à ces aires-là aussi. Ces avantages-là. Donc, ça ferait mieux. Alors, je pense que ça va quand même jouer sur les élections, certainement. De ma part, je ne vois pas grand-chose, même si on prolongeait donc, la date des élections. Moi, je ne vois pas donc quelque chose de désavantage dans cette affaire parce que nous vivons aussi déjà des choses qu'on a déjà vécues auparavant, nous on s'habitue déjà à avec ça. Donc. Alors, que la CENI vous dit pas que prolongation par prolongation pour les heures qui restent automatiquement. Elle doit encore donner aux airs qui restent. C'est seulement cette contribution que j'avais voulu pour cette émission.
Voilà, merci beaucoup. Alain Bolodjoa, ben c'est vrai, y a beaucoup de choses qui sont dites. L'article 2, l'article 80, permet à ce que les partis politiques puissent former ses membres. Mais entre-temps, l'article 80 interdit la pré-campagne.
Bon, moi, je crois d'abord, félicitations, merci à tous nos concitoyens qui sont intervenus là. Je crois que nous devons effectivement analyser cette question avec la sérieuxité voulue. Ce sont des signes prémonitoires d'un chaos qui se prépare, un chaos électoral. Parce que déjà le fait de voir le membre de la CENI accepter l'argent pour ne pas respecter l'ordre d'arrivée au niveau des centres, cela veut dire qu'ils sont déjà prédisposés à se faire corrompre. Le fait seulement que nous voyons le politicien profitant de ces situations pour corrompre le membre de la CENI et par ricochet corrompre le potentiel électeur, cela sous-entend qu'il n'y a rien de changé, nous risquons d'avoir de mauvaises élections comme d'habitude. Donc nous devons tous nous ressaisir et comprendre que nous sommes partis sur de mauvaises bases.
Voilà.
Ce qui est important,
oui,
les élections ont une finalité, celle de donner la possibilité à la population qui est souveraine de se choisir de personnes de son choix. On viole la loi, mais personne n'est sanctionné. Et même si vous prenez en termes de loi...
Non, mais il paraît que... Le CESAC s'est déjà prononcé, quant à ceux...
Le CESAC n'a pas le pouvoir de gérer le politicien. C'est ça le problème. Certainement qu'il pourra tenter de sanctionner la presse, mais je ne vois pas le CESAC sanctionner la RTNC.
Donc, il a interdit aux médias de diffuser des tapages de tous ces candidats annoncés.
Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Mais ils n'ont pas le pouvoir de sanctionner le politicien parce que ce sont ceux qui sont du pouvoir qui le font de manière en règle générale.
Donc vous voulez dire qu'ils n'ont pas un pouvoir contraignant. Ils n'ont pas un pouvoir contraignant.
Non, ils n'en ont pas. Et même s'ils pouvaient en avoir, fort malheureusement, nous savons comment l'État congolais fonctionne. Il y aura toujours des exceptions et c'est sur base de ces exceptions que les autres vont en profiter. Si aujourd'hui les gens ont le courage de dire, de commencer déjà la pré-campagne, parce que M. Fay, c'est qu'il avait déjà fait, déjà au niveau de Lualaba. À l'époque, on n'avait même pas débuté le processus électoral. Le président de l'Assemblée nationale l'a fait. Nous attendons le président du Sénat le faire. Le premier ministre va le faire. Probablement, on risque aussi de voir le président de la Cour constitutionnelle le faire. Bref, nous devons d'abord nous ressaisir et remettre le pays sur les rails. Parce qu'au regard de toutes ces données, nous risquons d'avoir de mauvaises élections. Il y a quelqu'un qui a dit ici, si nous n'avons pas des élections de qualité, ça pourrait aussi nous amener à une sorte de déséquilibre de la fibre sociale. Parce que déjà, il y a déjà des tensions. Juste pour l'enrôlement, les gens qui se battent, vous l'avez dit. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sur le rail.
Et curieusement, ce sont des membres d'un même regroupement politique.
Non, mais le problème, c'est qu'il y a une juxtaposition d'intérêts et de conflits.
Tel veut avoir la primauté, tel veut avoir l'ascendance sur l'autre, et l'autre n'accepte pas. Et même au sein des partis politiques, il y a maintenant cette confusion.
Il y a des conflits
parce qu'on veut propulser tel.
Oui. Il y a un intérêt. C'est vrai que vous pouvez être membre d'un seul parti politique, d'un même parti politique, mais il y a un conflit d'intérêts au sein de partis.
Dans la mauvaise gestion des ambitions.
Si nous ne pouvons pas nous ressaisir, ça ne sera pas une bonne chose. Déjà, je constate que la CENI ne fait pas bien son travail et cela est voulu par la classe politique. C'est fait à dessein. Tout ce que nous voyons là, c'est fait à dessein. Parce que personne ne veut respecter la norme. Ce qui veut dire que nous risquons d'avoir des élections bâclées qui ne vont pas nous permettre d'atteindre l'objectif pour lequel nous avons institué les élections. Mettre fin à la crise des légitimités.
Voilà, on va écouter.
On doit éviter de faire du surplace. Il faut que nous soyons dans une dynamique de l'évolution, que nous changions ce qu'il y a eu dans les élections passées. Je ne vois rien de nouveau. Parce que si vous prenez ce qu'on nous dit au niveau de la CENI, c'est le code qui est l'innovation. Non, ça ce n'est pas notre innovation.
Mais ça n'a pas marché, on dirait. Ça n'a pas marché.
C'est l'innovation d'ailleurs.
Dans la plupart des cas.
Nous ne faisons que copier. Mais cela ne nous permet pas des garanties de bonnes élections, c'est ce que le peuple souhaite d'ailleurs.
Alors, dans cette opération, à la première ère opérationnelle, il a été prévu le pré-enregistrement, mais apparemment ça n'a pas marché. Hein.
Non, mais les QR là ne fonctionnent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas le dire. Ça a été mal conçu Et ils ne savent même pas lire. Et d'ailleurs, si vous allez au niveau de centre d'enrôlement, on vous prend tous les éléments qu'il y a, alphanumérique, biométrique et consorts. Ça devrait en principe servir à l'identification lors du vote. Il faut que dans chaque bureau, qu'ils aient un mécanisme de lecture de ces kicks. Si on n'a pas le mécanisme pour lire, ça ne va servir à rien. Voyez-vous ? Ce qui veut dire qu'ils ont voulu impressionner la population, alors qu'en réalité, ils n'ont pas la technologie à même de nous aider à avoir cette réalité. Le problème nombre d'enrôlés, c'est quand même surprenant. Si on avait 45 millions d'enrôlés, il y a de cela près de 7 ans. En réalité, on devait s'attendre au moins à un accroissement de près de 20% au regard de la dynamique de notre démographie, au moins de 20%. On pouvait peut-être projeter dans les 55 millions d'enrôlés. Et si la première zone, on arrive même à atteindre 50% des prévisions, cela sous-entend qu'il y a effectivement un sérieux problème. Nous risquons de terminer cet enrôlement avec moins de 30 millions. On doit maintenant justifier aux générations futures qu'est-ce qui s'était passé, comment on avait enrôlé 45 millions il y a peu, et aujourd'hui nous sommes incapables de mobiliser 30 millions. Cela veut dire soit qu'il y a des gens qui ne vont pas se faire enrôler, soit qu'il y a des gens qui sont morts, que nous n'arrivons pas à dénombrer. Et ça, c'est quand même surprenant. C'est que sous-entend que dans la conception des stratégies opérationnelles, au niveau de la CENI, ils se sont basés sur rien. Certainement que nous sommes dans un système de tabula rasa. Lorsqu'on arrive, on fait fi de tout ce que les autres ont fait avant. On commence les choses à zéro, comme si nous étions dans un monde nouveau.
Alors, Alain, si vous le permettez, Alain.
La fois passée, oui. Qui n'ont pas été retenus, on prend des gens qui n'ont jamais travaillé devant la machine, on fait deux.
Oui, parce qu'on a peut-être des arriérés. On a peut-être des arriérés, les passifs pèsent. Mieux vaut se passer de toutes ces personnes-là qui ont travaillé et engager des nouveaux. Donc, je crois que c'est le principe de ne pas se surcharger avec un passé très lourd. Merci beaucoup, un passif très lourd, voulais-je dire. Merci beaucoup, Alain. On va revenir à vous pour la conclusion. Il est temps pour nous de retrouver Honoré Ofuanga Nahi, qui est au Kasaï Central. Alors, Honoré, vous êtes avec nous. Vous merci de nous avoir rejoints. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Honoré, qui en principe avait insisté pour intervenir dans cette émission. Alors, on va découvrir quelques messages qui nous ont été envoyés par les uns et les autres sur cette question des prolongations de la période d'enrôlement dans la première zone opérationnelle qui prend en compte le Bas-Congo, pardon, le Congo central, Kinshasa, l'Équateur, le Sud-Ubangi, le Nord-Ubangi et ailleurs. Voilà, donc nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit et qui aimeraient bien, disons, que nous puissions, bien entendu, lire leurs messages. Alors là, il y a Jean-Baptiste, pardon, Moïse Soumaïli. Moi, c'est Monsieur Moïse. J'aimerais savoir, est-ce que, comme il y a prolongation du délai d'enrôlement dans la première ère opérationnelle, les autres délais seront toujours tenus? C'est la grande question, mais je doute fort que cela arrive. Guy Kambouni, et la conséquence de cette pré-campagne, c'est la faiblesse ou l'impuissance de l'officier du ministère public. Serge Sermi, MKG, dans les Holomami. Bonjour Radio Capi, c'est une sorte de ralentissement acheminé à la non-volonté d'organiser cette étape qui peut également, à la longue, traîner les élections transparentes et arriver aux mêmes causes de 2018. Espoir Bembeleza, depuis la ville de Kisangani, ce que nous observons actuellement dans notre pays et que ceux qui sont au pouvoir sont incapables de mettre la rigueur sur le respect de notre constitution. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, on va écouter Honoré avant de conclure cette émission. Honoré, je crois que la ligne s'est rétablie. Honoré, bonjour.
Oui, bonjour, cher monsieur le journaliste, messager.
Vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup de la parole. Je suis monsieur Honoré Onfanganaï, depuis la ville de Kananga, province du Kasaï Central. J'ai beaucoup aimé la thématique, c'est une bonne thématique pour le préparatif d'enrôlement. Donc, chez nous, en province du Kasaï Central, Non. Nous avons bien attendu tous les intervenants qui ont intervenu par rapport à cette situation. Donc, chez nous ici, nous attendons l'enrôlement. Le problème qui se pose chez nous en province, c'est par rapport à nos élus députés provinciaux ou nationaux. Lorsqu'on n'était pas tout près des élections, ils ne venaient pas ici, on les appelait, ils ne prenaient pas les appels. Mais lorsqu'ils ont vite compris qu'ils attendaient déjà les élections, ils ont commencé maintenant à prendre des appels. Qu'est-ce que moi je peux dire concrètement? Je suis en train de sensibiliser et mobiliser ma base. Qui sera élu comme député, provincial ou national? Parce qu'il faut élire une personne qui va d'abord songer à l'intérêt de la population et leadership collectif. Donc nous attendons.
Mais s'il faut penser à un député qui va penser au problème de la population, ben ceux qui ont déjà des moyens voulaient.
Il y a la vision du peuple ou d'aider la population.
Oui.
On peut pas élire n'importe qui, hein. C'est ça au même problème.
Parce que mais honoré. Mais ceux qui vont aider, c'est ceux qui ont l'argent, et ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui sont au pouvoir.
Donc, ils n'ont pas encore des discours à dire à la population. Donc, pour être élu, je ne demande pas de l'argent, mais il faut être crédible à la population. Quand cela, vous serez élu.
Merci beaucoup. Voilà, on revient à vous, Alain Bolodjoa, pour la conclusion de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai que la deuxième ère commence déjà. C'est 25 janvier. À Lubumbashi, cette opération sera lancée par le Premier ministre Sama Lukonde. Et au Kasaï par Denis Kadima. Quelle est votre réaction?
Bon, j'aurais souhaité plutôt que au niveau du Katanga, ça soit lancé par un autre membre de la CENI qu'un membre de l'exécutif. Ouais. Parce qu'apparemment, nous sommes tous dans la confusion. Comment voulez-vous que les opérations de la CENI, qui déjà amènent une sorte de conflit d'intérêts entre le parti, au niveau de cette province, soit lancée par une partie prenante au processus électoral. C'est tout de même surprenant. La CENI a plusieurs membres. Et je crois qu'on a tenu compte de la représentation de ces zones-là, de ces aires opérationnelles. Il fallait plutôt qu'on envoie les personnes qui sont issues de cette province ou d'autres personnes qui sont membres de la CENI. Parce que le gouvernement ne peut pas venir lancer les opérations de la CENI qui se veut une institution indépendante.
Est-ce qu'il y a une jurisprudence depuis 2005 jusqu'en 2017 où les premiers ministres Matata Ponyo, Mouzitu ou tant d'autres qui ont lancé les opérations d'enrôlement?
Bon, en tout cas, ma souvenance, non. Je ne sais pas s'il y a un premier ministre qui s'est déjà permis de faire ça. Très souvent, on voyait les gens se déployer. J'ai vu Basenge y prendre une partie, j'ai vu
Nanga prendre
une partie. Il y avait des rapporteurs et consorts. Tout le monde était déployé pour sensibiliser, lancer les opérations. Après, ils viendront pour faire le rapport. Le premier ministre fera rapport à qui? Parce qu'il est là en mission pour soutenir la CENI. Il fera rapport à qui? Parce qu'il n'y a pas de lien sur le plan opérationnel entre le premier ministre et la CENI. Ce sont des problèmes. Un autre élément, je voudrais dire à notre ami du Kananga. Ce n'est pas le moment de dire qui doit voter, qui et comment. Non. Vous êtes d'abord au niveau de vous faire enrôler. Devenez électeur. C'est après seulement lorsque la CENI va vous donner le pouvoir, le droit de le faire. C'est en ce moment-là que vous allez vous lancer. Parce qu'apparemment, nous sommes tellement dans la confusion. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Ce sont des choses qui sont entretenues d'abord par les élus, ceux qui nous ont donné ces lois, eux-mêmes déjà sont dans la confusion et ça fait que ça devient généralisé. Je demande à la population d'être très exigeante par rapport à cette réalité-là. Peut-être que les gens ne le savent pas. En 2006, nous avons connu des problèmes. En 2011, en 2018... Nous devons éviter.
Voilà, c'est un travail qui doit être fait par les mouvements citoyens. Continuer à sensibiliser la population pour, au fait, poser un acte civique qui est réellement raisonnable au lieu de tomber encore dans les erreurs comme par le passé. Voilà, donc, à cause d'un polo, à cause d'un 2000 francs, 5000, 6000, on va brader son éligibilité ou encore son caractère d'un électeur. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Nous rappelons que vous êtes acteur politique et en même temps analyste politique pour cette question. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir aussi accepté d'intervenir dans cette émission partout où vous vous retrouvez. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.